L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Donc ici nous sommes pour la rediffusion du 5e épisode de Gazette Africa au titre de l'Arbre à palabres et l'écriture engagée que nous avions organisé le samedi 10 septembre. Et dans cet épisode-là, dans ce passage-là, nous continuons Nathalie Bouly, donc qui est responsable de l'accueil de notre écrivain, reçoit Anthony Muyongi qui est congolais, journaliste. Reporter exilé en France et qui a échappé de peu à la mort dans son pays, et il en a tiré un roman qui s'appelle Rescapé. Donc je vous souhaite une bonne écoute de ce dernier épisode. Au revoir à tous et bonne écoute.
Et ce qui est très formidable aussi dans le bouquin, c'est que, d'abord, je voudrais insister aussi sur le style qui est très journalistique. C'est-à-dire qu'on sent que ça vous est arrivé quand même, hein, que vous êtes très proche de ce Franck. Et en même temps, vous en faites un récit extrêmement factuel, tout en mettant quand même en avant des très beaux personnages. Je trouve que vous mettez beaucoup de soin. Alors, je prends mes notes parce que, le papa Joachim, après Olga, tous ces personnages qui croisent son exode à un moment, parce qu'il y a même des fois, il décide de partir. Ce compagnonnage aussi avec Roland. Vous en faites des personnages de roman. Parce que, bon, c'est un roman, alors qu'en définitive, c'est un témoignage. Hein, c'est entre le témoignage et le roman. Et pourtant, vous arrivez de tous ces personnages qu'il croise à en faire des personnages de roman. Vous l'avez travaillé comme ça quand vous l'avez écrit ou...
Déjà, l'idée germait dans la tête quand je suis revenu depuis le début des années 2000. L'idée germait dans la tête. Donc progressivement, je prenais les notes, notamment sur les noms des lieux, les distances entre chaque localité. Et quand j'ai décidé de l'écrire, je me suis dit que même si le livre peut être l'histoire de Franck, mais à côté, il y a d'autres personnes aussi qui accompagnent cette histoire. Franck est rescapé, certes, c'est écrit au singulier. J'aurais pu écrire rescapé au pluriel, parce qu'ils sont nombreux à avoir survécu à cette histoire. Et je me suis dit que chaque personne devait porter... une part de l'histoire aussi, en accompagnant, en aidant Franck à avancer dans cette, comment dire, cette quête humaine de retrouver ses parents. Et il fallait faire un portrait, présenter donc, Franck devait présenter au lecteur les différentes personnes, Papa Joachim, Olga...
Même les vendeuses de tomates dans la ville, vous leur donnez une humanité donc, à ces vendeuses de tomates.
Donc là, je lui donne un de mes caractéristiques, ou plutôt on peut dire une de mes qualités, quand je vais quelque part, j'observe, je photographie tout ce que je vois, j'essaie de retenir... Et ce que j'ai vu, par exemple, je rentre dans cette salle, je vois les rideaux sont rouges, comment sont disposées les chaises, comment sont disposées les lumières, comment s'y sent l'atmosphère. Et je me dis que si je veux écrire un texte en parlant d'une salle, je peux reprendre cela, exactement ça. Et l'histoire des tomates, c'est parce que on se retrouve dans un moment de conflit. Et il y a curieusement une grosse production de tomates, alors que ces mamans-là, en temps de paix, auraient gagné beaucoup d'argent en vendant leurs tomates à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Mais là, ils n'ont rien pu faire, la récolte était perdue. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil.
Mais c'est ça qui est formidable dans le livre, c'est qu'il y a vraiment toute une... à travers un récit journalistique, toute une humanité très très forte. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai refermé le livre. C'est vraiment cette humanité très forte. Il y a un passage aussi, alors je vais le faire lire encore par Marcel, parce que c'est un passage où on parle de Bongi. Voilà, et donc c'est quelque chose aussi qui revient, l'arbre à palabres, qui est très important dans tous les villages qu'il traverse d'ailleurs.
Exactement, là. Dans tous les villages, au centre du village, il y a... ce qu'on appelle Mbongi, il y a les endroits où on l'appelle Philippe, Mwasa, c'est ça? Mwanza. Voilà, donc on ne dit pas Mbongi dans tout le Congo, dans des zones où c'est un autre nom, mais le rôle et la signification restent les mêmes. C'est l'endroit où, dans le temps, il n'y avait que les hommes qui se retrouvaient pour parler du village, et les femmes venaient apporter à manger, à boire, voilà. Et c'était très machiste comme
fonctionnement.
Non, mais avec Marcel, c'est sûr qu'il change le concept, il fait venir tout le monde. Mais
il nous fait croire en tout cas.
Malela Ndoki se présenta à nous en fin d'après-midi et nous nous dirigeâmes tout naturellement vers la parcelle de Fofo. Ce dernier fut très surpris quand il nous vit arriver. Son large sourire habituel éclairait son visage joyeux. Visiblement, il était content de nous voir, tout comme Gauthier et Flatty, un cousin de Roland. Après les effusions de joie, le petit groupe prit place sous le hangar qui servait de Mbongi et sous lequel brûlait un feu. La conversation tourna bien sûr autour de la famille, du conflit qui s'éternisait. Fofo était sceptique quant à l'issue de celui-ci. Comme Roland, il pensait que nous en avions pour longtemps. Nous en étions tous conscients, mais pour des raisons de prudence, il était préférable de ne pas donner son opinion à haute voix. On ne savait jamais qui pouvait vous entendre. Après un sommeil réparateur, je découvris le village le lendemain matin. Il était à tout point identique à tous les villages du pays. Il était traversé par une voie carrossable en latérite et des maisons de part et d'autre de celle-ci. C'était un petit village qui tenait son nom d'un ancien chef coutumier. Quand on se balade dans le village, la première chose qui attire l'attention est la tomate. En effet, Malela Ndoki est un gros producteur de tomates. Cette année, la production était abondante. Et n'ayant pas les moyens de l'écouler vers la capitale, la production pourrissait sur place. Sur la grande avenue, des femmes se tenaient devant des cuvettes remplies de tomates, attendant d'hypothétiques acheteurs qui, malheureusement, se limitait aux déplacés que nous étions.
C'est aussi ce qui se passe quand ils traversent les villages. Et puis, il y a un moment où la guerre va un petit peu se changer. Et il y a tout le passage que vous racontez formidablement quand ils décident de repartir à Brazzaville, en passant par le Congo, en traversant le Congo. Et c'est là où il a fait la rencontre d'Olga et d'un petit garçon aussi.
Oui, un petit garçon qui s'appelait Primo. Le petit garçon, le jour du déclenchement de la guerre, il était seul, puisqu'il vivait avec sa mère. Et il est parti dans le mouvement comme ça, sans savoir là où il allait. Et des kilomètres après, se rendant compte qu'il s'éloignait de plus en plus de chez lui, il a commencé à pleurer. Et c'est là que Olga et son compagnon l'ont remarqué, lui ont demandé qu'est-ce qu'il avait, pourquoi il pleurait. Il a expliqué sa situation, qu'il était seul, que sa mère devait être au bureau au moment où les événements avaient commencé. Donc ils l'ont pris sous leur aile. Ils l'ont amené avec lui. Ils l'ont protégé tout le temps du conflit.
Toute la scène de la traversée en pirogue de Congo, d'ailleurs, on apprend aussi énormément de choses que quand vous dites que c'est les deux capitales du monde qui sont la plus proches l'une de l'autre. Kinshasa est juste en face.
Kinshasa est juste en face de Brazzaville. Voilà. Quand on est à Brazzaville, on regarde la lumière de Kinshasa. Il arrive même quand il y a un match de foot de l'autre côté, s'il y a un but, on entend à Brazzaville les gens jubiler à Kinshasa. Donc, c'est...
Et comment est Brazzaville quand il revient alors? Apaisé, enfin, les armées de Nice sont victorieuses sur,
quand on quitte, arrivé de la traversée entre Ngobila et le beach de Brazzaville, se passe bien, mais il y a un peu d'appréhension et d'inquiétude une fois sur le sol congolais, parce que les rumeurs avaient déjà circulé qu'il y avait un groupe, un contingent de réfugiés qui avait traversé, mais pour qui on avait, qui avait complètement disparu, on n'avait plus de nouvelles d'eux. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles d'eux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire des disparus du beach.
Non, pas tellement.
Voilà, en les disparus du beach, c'est un groupe de réfugiés qui, comme moi, avait fui le conflit, qui, comme Franck, s'était retrouvé à Kinshasa et avait traversé. Et quand ils sont arrivés, ils sont partis, ils ont disparu complètement, alors que certains avaient même déjà repéré leurs parents. Donc, vous descendez du bateau, vous voyez votre père, votre frère, vous lui dites bonjour, et à un moment, vous dites, écoutez, avant de sortir, venez un peu par ici et vous partez jusqu'à aujourd'hui. Alors que le père vous a aperçu et attend des heures et des heures. Mais où sont les... Ce qui est bizarre et triste à la fois, ce n'était que des hommes qui ont disparu, les femmes et les enfants, sont rentrés. On a juste arrêté les hommes parce que, stupidement... On a cru que chaque homme était forcément un rebelle, était forcément un militaire qui venait pour, qui a participé au conflit, alors que nombreux, comme Franck, comme Roland, étaient des innocents, oui. N'avaient jamais tenu des armes, ils avaient juste quitté la ville parce qu'ils craignaient pour leur vie. Donc les disparus du beach, ça s'est produit autour de avril, mai. Et donc, dans les camps de réfugiés, le bruit courait déjà qu'il y avait un groupe de réfugiés qui n'étaient pas arrivés. Donc, beaucoup de gens ne voulaient pas traverser.
Voilà, on sent qu'il y a peu d'enthousiasme quand même.
Il y a peu d'enthousiasme. Donc, celui qui voulait traverser était à la limite qualifié de stupide. Oui. Quoi. Tu veux te jeter dans la gueule de loup.
Bon. On sait combien il y a eu de morts pendant ces 7 mois. Est-ce que ça a été à un moment ou un autre comptabilisé? Est-ce qu'il y a eu des
le grand problème du Congo, c'est à ce niveau. Il n'y a pas d'études. On est du genre, quand un problème arrive, si on le règle, on glisse tout sous le tapis et on fonctionne. À aucun moment, on fait un travail intellectuel pour se dire... On a été stupide en 93, 94, en 97 et en 98. Et là, jusqu'en 99, mais dans certaines contrées, ça arrivait jusqu'en 2000. Pardon. On ne se pose pas la question de savoir combien de personnes nous ont quittés, combien de personnes...
C'est un pays de combien? 3 millions?
On peut avoir 3, 4, 5 ouais. millions, on estime, parce que il n'y a pas de chiffre... précis, donc on estime à 4-5 millions d'habitants sur une superficie de 342 000 km².
Et en plus, si je peux me permettre,
les statistiques de population, justement, aujourd'hui, intègrent les réfugiés que l'on a accueillis, en tout cas au Congo, qui venaient des guerres du Rwanda, en fait, et du Congo, de l'Est du Congo. Et ils sont venus en plus par milliers, par millions. Et donc, ils font maintenant partie de la population. En fait.
C'est pour ça que je voulais une carte. Oui, je pose une dernière question. Je voulais une carte pour montrer, parce qu'on voit bien que par l'Angola et tout ça, on monte jusqu'au Rwanda. La dernière question, c'est la fin. Donc, Franck décide de revenir à Pointe-Noire. C'est la différence, justement. Là, vous nous faites bien comprendre qu'il y a des zones de guerre, notamment dans le Poule. Et puis qu'à côté, on ne voit rien.
Il n'y a rien, voilà.
Et, je vous laisse,
et l'objectif de Franck, dès le début, c'était
d'aller
à Pointe-Noire.
Où il y avait sa maman et sa famille.
Voilà.
Et bien justement, le dernier passage que j'ai choisi, c'est sur votre mère, enfin sur la mère de Franck.
Plus les mois passaient, plus elle finit par croire que je n'étais plus en vie. Elle ignorait que j'avais quitté la ville le même jour. Ma mère se mit alors à ne porter que des couleurs sombres. Elle se coiffait à peine. Elle ne pouvait pas s'imaginer être coquette alors que son fils aîné était peut-être mort. Comme à son habitude, elle se réfugiait dans la prière. elle chantait ses cantiques et souvent, quand elle chantait, elle éclatait en sanglots. Stevie me raconta qu'il arrivait qu'elle et ma tante Mélanie se mettent à pleurer, ce qui attirait parfois les voisins qui, sans doute, se demandaient si la nouvelle de mon décès était confirmée. Quand les deux femmes pleuraient, toute la maison était triste et les petits ne savaient plus quoi faire. Pendant que je l'écoutais, je compris aussi que cela n'avait pas dû être facile pour lui ces mois où j'étais porté disparu. Stevie était très soulagé de me voir de retour. Apparemment, le rôle d'aîné lui avait pesé. Je le regardais sourire aux lèvres. C'est fou comme il m'avait manqué et c'est fou comme je l'aimais. Je ne lui avais jamais dit d'ailleurs. C'était un bonhomme maintenant. Il avait 19 ans et il a toujours été plus grand que son âge. Je n'étais pas très bavard, je me contentais d'écouter. Ma famille avait souffert de ne pas avoir de mes nouvelles. Je souffrais d'être loin de tout et de ne pouvoir les leur donner.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce passage, hein, sur votre rapport à la famille. On va passer la parole au public pour parler de... Oui, bien sûr.
Merci pour le témoignage. Et je suis d'autant plus touchée et bouleversée. Je suis d'autant plus touchée et bouleversée qu'il n'y a pas longtemps, je suis allée voir un film qui est passé un peu inaperçu, comme tout ce qui se passe au Congo. C'est un scandale, c'est un silence attourdissant. C'est un film belge qui s'appelle « L'Empire du silence ». Et c'est quelqu'un qui a pris, c'est un amoureux de votre pays, Thierry Michel, qui est allé, il a pris beaucoup de risques. Hein, et à un moment, c'était tellement dur, tellement violent, d'ailleurs que le caméraman voulait partir tellement ils ont assisté à des horreurs. Sauf qu'ils étaient partis avec un groupe et qu'il y a les autres, les rebelles qui les poursuivaient. Il a dit, si tu montres ce que tu peux, on va te trucider, etc. Et ce film, il faut absolument qu'il soit diffusé. D'ailleurs, je me disais, je vais voir avec Hélène si on pourrait pas le rediffuser ici. J'avais vu en première. Hein, il s'appelle L'Empire du silence. Et c'est un silence attourdissant sur les horreurs qui se passent au Congo, parce que ce sont des horreurs. Et je peux vous dire que j'aime beaucoup moins le Rwanda depuis que j'ai vu ça, malgré tout. Voilà. Excusez-moi. Je pense pas parce que c'est le film il vient de sortir.
Là le film se déroule en RDC, ouais. Et nous sommes, ouais, du Congo Brazzaville, oui. C'est relativement calme.
Mais il y a quand même des passages un peu. Il y a eu des passages quand même de population.
Oui, exactement, ouais. Puisque les deux peuples sont très liés historiquement, ouais, culturellement. On a les mêmes noms, ouais. On a les mêmes, ouais, pratiquement des groupes ethniques le long du fleuve, ouais, que ce soit au nord, que ce soit au sud. Ouais. Donc il y a des coins du Congo où, pour aller en RDC, on traverse juste une vallée, on regarde de l'autre côté. Donc, on a des familles qui sont une partie au Congo-Brazzaville, une autre partie en Congo-Kinshasa.
Donc, on doit lire absolument ce livre et puis aller voir le film.
Je vous le conseille.
Micro. Non, je dis par rapport au Congo Brazzaville, il y a eu des auteurs congolais qui vivent en France. Je pense particulièrement à Dieudonné Nyanguna, parce que nous l'avons reçu, qui n'ont plus le droit de retourner au Congo depuis la signature,
depuis le changement de constitution.
De constitution et tout ça, et ils sont interdits de retour. Et lui qui a organisé un festival de théâtre à Brazzaville est interdit de cela. Il y a Mabanko aussi, mais Mabanko est beaucoup plus connu. Hein. Alors attends, il faut que... Oui. Alors moi, je suis là aussi parce que je connais bien Marcel et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Nous aimons beaucoup ce qu'il fait. Voilà, et je suis la présidente d'une association qui est Teria Solidarité, qui a une série de projets à Abidjan et à Bamako, en tant qu'association humanitaire, mais qui a aussi des projets culturels. Et je vous donne simplement une toute petite information, mais je n'y arriverai pas. C'est que nous avons décidé cette année de faire nos cafés littéraires itinérants, parce que nous avons aussi des événements culturels que nous organisons en France pour essayer de casser un peu les clichés qu'il y a sur l'Afrique. Nos projets humanitaires sont vraiment à Bamako et à Abidjan. Mais au niveau culturel, on défend des artistes, que ce soit des peintres, que ce soit des sculpteurs, et aussi la littérature. C'est pour ça que nous avons travaillé avec Dieudonné Nyangouna l'année dernière, et une de ses pièces de théâtre, justement, sur la période que vous abordiez. Et cette année, après 2 ans de fonctionnement sur le lieu de l'association, nous avons décidé d'être en itinérance. Donc nous allons, par exemple, le 6 octobre, notre première rencontre se fera à partir d'Americana et aura lieu au Dôme. Ensuite, nous serons à la médiathèque de Latte. Ensuite, nous serons au siège de l'association et en janvier à la médiathèque de Carnon. Et nous passerons ainsi en revue des auteurs qui nous intéressent. Donc là, Americana, je n'arrive jamais à dire le nom de cette autrice. Voilà. Et voilà. Voilà. Et qui est nigériane. Ensuite, c'est une burkinabé que nous examinerons. Et... ensuite, ce sera Kauter Adimi, qui est franco-algérienne. Et en janvier, à la médiathèque de Carnon, nous parlerons de la promesse de Damon Galgut. Donc, si vous voulez, et ces rencontres se termineront tout le temps par des scènes poétiques. J'espère que, en tout cas, Marcel me l'avait promis. Il sera là au Dôme le 6 octobre, puisqu'à la fin de nos rencontres, ça sera à 18h. Voilà. Et ensuite, il y aura une scène ouverte et les personnes pourront venir soit avec un extrait de texte de littérature africaine du nord au sud, c'est-à-dire dans sa globalité, hein, ou des textes personnels. Voilà. Merci beaucoup.
Je voulais vous remercier aussi de m'avoir invité, de m'avoir donné la possibilité de venir à Montpellier. Je signale que c'est la première fois que j'arrive dans cette ville. Donc ça restera associé à cet événement, ça restera associé à votre radio, Radio FM+, c'est ça ? Voilà. Et à Montpellier, exactement. Et moi, particulièrement, comme j'aime beaucoup la radio, donc j'imagine que vous passez des moments intéressants avec recevoir les gens, parler de leur vie, parler de la radio. C'est ça que...
On fait que ça.
C'est ça, qui m'a amené à exercer ce métier. Et parfois, ça me manque les émissions à la radio.
Alors, bienvenue à FM+, hein. On peut faire ça par téléphone, monsieur le directeur. Okay. On laisse la place à Sixon pour ses dernières créations. Merci à tous les trois d'avoir conclu cette journée. Merci à tous les quatre. Oui, bien sûr. Nous, on se retrouve pour un Gazette Africa au mois de novembre.